deuxièmes assises transnationales et intergalactiques de la presse libre, satirique et indépendante. Organisée par Mouet, à la ferme de la Soréa, les 4 et 5 juin 2022.
L'été, c'est encore loin, la Soréa, 4 et 5 juin, édition 2022, à nous deux. YouTubercule, échappe-toi, si tu peux.
C'est le direct.
Ah, là, on a une table fournie. Là. On a Stéphane qui est en observateur, on a le grand Charles qui nous a rejoint. On a Alex qui est là pour me faire chanter, puis il y a toujours Palach, il y a Mme Palmer, et puis il y a Joss qui est là, qui est en train de s'enrouler une avant de participer à cet échange. On va commencer avec Charles. Charles, toi, tu es là pour représenter Reporter. Alors, pour notre auditeur coincé dans les embouteillages qui ne comprend rien, c'est quoi Reporter ?
Eh bien, Reporter dans les embouteillages, il ne pourra pas l'entendre, puisque c'est de la presse écrite, en ligne. Reporter, c'est le quotidien de l'écologie. On existe depuis une dizaine d'années. On est en accès totalement libre, c'est important. On n'a pas de pub, on n'a pas d'actionnaire. C'est une association qui est propriétaire du titre. Et depuis 10 ans, on n'arrête pas de gagner des lecteurs. Au début, on se bagarrait pour faire entendre la cause écolo dans le débat public. Aujourd'hui, j'ai l'impression que de plus en plus de gens se rendent compte que c'est un sujet primordial. Donc, tant mieux pour Reporter, c'est moins bien pour nous, humains, et tout ce qui vit sur cette planète, mais on continue, quoi.
Ouais, à chaque chose, malheur est bon, en fait.
En quelque sorte. J'ai un ami qui bosse dans l'humanitaire qui me dit que plus il y a de détresse dans le monde et mieux les humanitaires travaillent. Il dit ça avec cynisme, mais bon.
C'est là qu'on gagne du pognon, de toute façon, c'est bien connu.
Évidemment, dans les crises. Dans les profiteurs de guerre dans toutes les guerres.
Reporter, c'est Hervé Kempf, c'est lui la figure, c'est lui qui a monté l'histoire, là ?
Hervé Kempf, oui, c'est lui le fondateur de Reporter. Pardon. Reporter a eu une petite histoire sur papier au tournant des années 90. C'était un mensuel qui a fait 6 numéros. Le titre était né à ce moment-là. Il l'a gardé. Et puis quand Hervé Kempf a quitté le monde avec beaucoup de fracas, l'histoire est, je crois, assez connue, il y avait une divergence majeure. Enfin, on l'empêchait d'aller travailler à Notre-Dame-des-Landes. Et il a décidé de quitter le journal. Et il a relancé Reporter sur Internet. Au départ, avec peu de moyens, et au fur et à mesure, le site s'est professionnalisé, et aujourd'hui, on a 15 journalistes et 5 personnes de plus qui travaillent aux différentes fonctions informatiques, développement, marketing, il en faut aussi de la com et de l'administration, parce que on est tous salariés et que c'est quand même des coûts fixes, en fait, hein, de faire tourner une structure, éditer des bulletins de salaire tous les mois, faire entrer des notes de frais. Il y a toutes ces fonctions-là qui sont invisibles, mais qui sont nécessaires au bon fonctionnement d'un média.
Hervé Kempf écrit pas mal de bouquins. Est-ce que Reporter est aussi branché sur l'édition ou c'est deux domaines complètement séparés ?
Reporter, il y a une collection Reporter au Seuil, aux éditions du Seuil, où il y a peut-être à la louche une dizaine de livres, peut-être plus, pas écrits que par Hervé. Hervé a dû en écrire deux. Et donc, généralement, c'est des livres écrits par des journalistes qui travaillent plus ou moins pour Reporter et sur des sujets écolo. Les recettes des livres, c'est 3% de nos recettes. 97% restant, c'est les dons des lecteurs. Et je le précise, c'est des petits dons. On n'a pas de donateurs cachés. Le plus gros don, peut-être, fait 10 000 euros. Sinon, le don moyen, c'est 60 euros. Il y a vraiment plein de tout petits ruisseaux qui arrivent et qui font que le fleuve Reporter arrive à fonctionner.
Hervé Kempf, donc c'est la figure emblématique de Reporter. Il a été connu notamment quand Chavez avait brandi à la tribune de l'Assemblée des Nations Unies son bouquin « Les riches qui salopent la planète ». Est-ce que Reporter participe aussi à organiser des débats, à profiter de la notoriété d'Hervé Kempf pour organiser des débats ? Est-ce que c'est un moyen de se faire connaître et de faire rentrer 4 rangs ?
Hervé Kempf a fait énormément de déplacements et de rencontres à l'époque où Reporter avait besoin criant et permanent d'argent. Aujourd'hui, ça va mieux grâce aux lecteurs qui nous donnent régulièrement, au pluriel, lecteurs évidemment. Et Hervé, oui, est très populaire. Il monnayait ses rencontres où on l'invitait, mais il reversait tout pour le fonctionnement de Reporter. Aujourd'hui, En fait, ça fait peut-être 2 ans, non, plus après 3 ans qu'on ne fait plus vraiment de rencontres. Avec le Covid, évidemment, c'était arrêté. Mais là, on a envie d'aller à la rencontre des lecteurs et de les voir en vrai.
Comment, quand on bosse à reporter, quand c'est... Bon, reporter, c'est une institution, c'est quelque chose que tu as expliqué qui dure depuis très longtemps, qui est financé. Comment on aborde une rencontre comme les Assises, ici, où tu as beaucoup de journalistes qui sont dans la précarité, en fait ?
C'est une bonne question. On a connu ça quand même à reporter, la précarité. Vraiment, ça fait peut-être 3 ans que... Le tournant pour nous, c'est l'expulsion, pas l'évacuation, ça c'est le terme du pouvoir, l'expulsion de Notre-Dame-des-Landes qui a vraiment marqué un tournant. On a couvert l'expulsion tous les jours. On a une journaliste qui a été blessée, Marie Astier, une grenade, un éclat dans le genou. Et on était là en pointe et on rivalisait avec West France qui avait tous ses correspondants qui étaient sur place. Et c'est vraiment là qu'on a vu le lectorat augmenter considérablement et les dons aussi de façon consécutive. Donc la précarité, en fait, on l'a connue. On était salariés, beaucoup à temps partiel. Moi, j'ai été pendant plus d'un an à mi-temps à reporter, en commençant à tiers-temps. On ne comptait pas les heures, c'est vrai. Les 2 campagnes de dons annuelles, elles étaient quand même primordiales. C'était vraiment stressant. Si on n'arrivait pas à engranger je ne sais plus, on devait peut-être demander 60 000 euros, on pouvait fermer, quoi. Aujourd'hui, on est content, évidemment, de pouvoir faire notre travail dans des conditions bien meilleures. Mais on continue à grandir, on embauche. Là, on vient d'embaucher une journaliste en CDI. On veut grandir, on veut continuer à faire de l'information de qualité et à faire que de plus en plus de gens se sentent concernés par la question écolo. Et pour revenir sur la précarité, les journaux travaillent beaucoup avec des pigistes. C'est important de le dire parce que les pigistes, c'est les petites mains du journalisme. Les gens qui ne sont pas dans le journalisme ne connaissent pas leur existence. C'est eux les plus précaires. Alors pas tous les pigistes, il y a des spécialisés qui gagnent très bien leur vie, mais quand même globalement, le pigiste est précaire. C'est des conditions difficiles. Il faut réfléchir à des sujets, les proposer à la bonne rédaction, passer du temps donc pour proposer le sujet, mais avoir le risque que la rédaction le refuse. On n'est pas payé pour ça. Les rédactions aujourd'hui font beaucoup pression pour que les pigistes ne fassent pas payer en salaire, mais en prestation auto-entrepreneur. On ne cotise pas. C'est illégal, hein, au passage. Hein, le journaliste doit être payé en salaire. Les frais ne sont pas remboursés. On grignote par-ci, par-là. Et nous, à reporter, au début, les pigistes, on ne les payait pas bien, à la hauteur des moyens qu'on avait, c'est vrai, mais dès qu'on a pu, on a augmenté les montants des piges, on les augmente aussi régulièrement, et aujourd'hui, on paye 400 euros brut la pige pour 8000 signes, ce qui est quand même dans la moyenne de la presse quotidienne nationale. Donc on est content de pouvoir faire ça, quoi.
Je voudrais juste apporter un petit témoignage par rapport à reporter et aux médias que je représente, qui est Ricochet. Et je pense que c'est lié à ce qui a été dit, c'est-à-dire qu'effectivement, reporter maintenant a un fonctionnement qui permet où ils arrivent à continuer, à être financés, etc. Mais ils montrent énormément de solidarité avec les médias indépendants. Et un exemple concret, c'est nous, avec Ricochet, on a été attaqués par la préfecture et puis par un procureur sur un article qui s'interrogeait sur les actions de sabotage sur les antennes 5G. Ils ont voulu nous attaquer là-dessus et on a publié une tribune qu'ils ont signée, mais plus que ça, ils ont décidé, eux, de faire un papier là-dessus et de republier l'article en question pour dire non, cet article, il a une valeur et nous, on le porte et nous, on le met en ligne. Et ça, c'est apparu dans le dossier judiciaire et le jour du procès, la juge a notamment fait état de ça, que reporter avait repris, l'avocat en a fait état aussi. Et donc c'est des gestes aussi qui sont chouettes, je trouve, avec des médias qui ont un peu plus de visibilité et qui aussi sont là pour soutenir et pour amener une aide aux petits médias. Et ça, c'est important, je pense.
Comment est-ce que vous organisez à 15? Est-ce que vous avez, par exemple, l'opportunité de prendre plusieurs jours, plusieurs semaines pour travailler sur des enquêtes? Ou est-ce que vous avez quand même un rendement obligatoire de faire un article par jour, par personne? Quel est un peu ce travail et comment vous l'organisez?
Alors, donc Reporter, c'est un quotidien. On publie tous les jours, sauf le dimanche, généralement 3 articles le matin et 1 ou 2 l'après-midi. Et on peut publier jusqu'à 5 brèves. On essaye vraiment d'avoir l'ensemble de la palette des formats journalistiques. Le papier d'info qu'on fait de son bureau, en compilant des sources qu'on a lues, ça c'est la brève plutôt, en passant quelques coups de fil, ça peut être le papier d'info, en allant sur le terrain, c'est le reportage, en faisant des entretiens, mais on développe aussi l'enquête. L'enquête, c'est... bon, évidemment, Mediapart, c'est presque l'exemple par excellence, hein. C'est l'un des fondements vraiment du journalisme avec le reportage. Et on arrive à mobiliser des journalistes, à les décharger de l'activité du quotidien pour qu'ils travaillent sur les enquêtes. Ensuite, on a un système de fonctionnement. Comme on est quotidien, il faut tous les jours quand même remplir le journal, hein, et dire des choses. On a un système de tour d'actualité où les journalistes tournent. Celui qui est annoncé de tour d'actualité le matin fait la mise en ligne avec la rédaction en chef du jour et après s'occupe de faire le papier qu'on dit le papier d'actu, qui est généralement un papier journée s'il y a besoin. On essaie de tenir ces deux temporalités du journalisme, le quotidien et l'enquête, qui est des choses de plus long terme. Et on fait pas mal d'enquêtes avec des pigistes aussi. Aujourd'hui, par exemple, on a mis en ligne une enquête en 3 volets de Célia Izoard, qui a beaucoup travaillé pour la revue Z, dont il y a un représentant aujourd'hui. C'est sur les conséquences écologiques de l'activité minière en France. Puisqu'on ne sait plus, on ne sait pas, mais il y a eu une très grosse activité minière, même pour certains sites de plusieurs centaines d'années, hein, en France, et tous les résidus miniers qui sont là, les stériles, il y a des pollutions, il y a des affaissements, et on essaie d'avoir une grosse enquête par mois. À titre personnel, moi j'ai une énorme passion pour le papier, c'est là que j'ai commencé. Je trouve qu'il y a il y a le toucher évidemment, mais il y a aussi, on voit sur la page ou sur la double page, on voit tout de suite la hiérarchie des articles, on voit lesquels se répondent, il y a un travail d'originalité de la mise en page qui peut être fait, il y a une diversité, une variété qu'on ne peut pas trouver sur le web. Mais comme on est un quotidien, avec la prétention d'avoir une audience nationale, sinon internationale, voire intergalactique, on ne pourrait pas assumer le coût financier d'un quotidien papier. Ça, c'est impossible. En revanche, j'ai des collègues aussi qui sont très amoureux de ce support-là, du papier, et il n'est pas exclu qu'on réfléchisse à la façon de faire des reporters papier, peut-être sous forme de mensuel, mais donc à ce moment-là, pour les articles qui n'ont pas une péremption de l'information trop rapide, quoi.
J'avais trouvé ça intéressant, Mediapart, avec la revue dessinée. Donc où là, c'est du dossier qui sort sous format bande dessinée. Et je trouve que c'est vraiment une très belle option aussi de dire, voilà, on n'en fait pas forcément régulièrement, mais là, c'est du dossier qu'on sort, du gros reportage. Et en plus, avec ce côté dessiné, mais je trouve que il y a certainement des choses à faire.
C'est chouette. Et j'ai un de mes collègues qui notamment a fait une BD, Gaspard Dalin, sur Bure, 100 000 ans. On est aussi plusieurs à aimer ça. Pour l'instant, la limite, c'est que la BD sur Internet, ça passerait pas. Donc il faut voir si l'enquête que l'on produit avec la revue dessinée, disons, on n'a pas de contact avec eux directement, mais ne serait publiée que sur la revue dessinée et pas sur le site. Mais il faut voir. L'autre chose, c'est que on est attaché depuis le début à Reporter à être en accès libre. Et on y tient vraiment dans la mesure où on considère que la catastrophe écologique que l'on vit concerne tout le monde. Et qu'il faut vraiment que tout le monde puisse avoir accès à ces informations-là. Alors, avoir d'un côté quelque chose payant et le reste qui est en accès libre, je sais pas. Mais oui, on aime bien rêver et essayer de forcer ouvrir la boîte de Pandore de l'imaginaire. Et ça peut être... Enfin, la forme dessinée peut clairement être une piste, quoi.
On trouve de la poésie. Quelle est la part culturelle qu'on trouve dans le reportage ?
Alors, c'est mon point de vue personnel. Elle est trop faible, je trouve, parce que on fait beaucoup d'infos. L'information sur l'écologie est quand même globalement déprimante. Et à force de dénoncer, de parler des luttes, enfin, il faut le faire, hein, je veux dire, et soutenir les gens, informer sur les gens qui se bagarrent, et c'est nécessaire. Mais dans la nécessité d'interroger le fondement même de la société dans laquelle on vit, la littérature, l'art, la poésie ont un rôle primordial et on leur donne pas probablement assez de place. C'est peut-être l'effet quotidien aussi. On a cela dit un article par mois qui est une sélection culturelle où les différents journalistes de la rédaction font quelques lignes sur un livre, une expo, un film qu'ils ont aimé et dont ils ont envie de parler. Et donc là, la sensibilité de chacun et les goûts de lecture de chacun s'y retrouvent. Mais on n'est pas assez bon, de mon point de vue, là-dessus. Comme on n'est pas, peut-être on pourrait développer aussi une sorte de reporter des idées où on serait au fait des débats philosophiques autour des questions. Alors nature, c'est déjà bien traité, mais y a un vrai foisonnement intellectuel autour des questions écologiques au sens large. J'aimerais bien, mais on est plusieurs aussi, qu'on ait les moyens, qu'on se donne les moyens de suivre ça en plus de l'actualité à proprement parler.
Peut-être l'opportunité de faire découvrir d'autres médias de la presse pas pareil à travers un article par mois, par exemple, qui parlerait de... Ben, je ne sais pas, de Ricochet ou d'autres.
Ça serait une bonne idée. On a eu quelques partenariats par le passé avec Silence, notamment. On échangeait un article. On continue un peu de temps en temps à faire des partenariats. Alors, ce n'est pas exactement la presse pas pareil, mais c'est rue 89 Strasbourg où il y a des échanges comme ça. Mais quand le Ravi a des galères, on relaye aussi leurs demandes. Mais c'est vrai qu'on pourrait faire plus aussi sur... Disons, à Reporter, on est vachement attentif à cette presse différente. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle mes collègues et moi, on s'est dit qu'il fallait qu'on soit représentés aujourd'hui. Quoi. Donc, quelle modalité ça prendra
Peut-être il faut que les partenaires de la presse pas pareil vous sollicitent, en fait.
Oui.
Peut-être tout simple de solliciter Reporter pour mettre en avant telle réalité ou telle réalité.
Oui, il y a plein de choses à inventer, je pense. Les échanges d'articles, c'est peut-être le plus facile pour l'instant. Là, on discute avec le Revue Z pour échanger un article sur leur dernier numéro qui est consacré aux forêts, sujet typiquement écologique et qu'on suit à Reporter depuis longtemps. Oui, il y a des synergies à trouver clairement, quoi. Et il y a une participation, à mon sens. Hein, je parle encore une fois à mon nom parce que les décisions à Reporter sont prises de façon quand même assez collégiale pour voir comment est-ce qu'on participe à ce mouvement d'émancipation de la presse. Quoi. Est-ce que c'est de l'émancipation
Joss, on est bon ?
On est bon, hein.
On va profiter de la présence d'Alex, alors. Alex, elle est là pour nous faire chanter.
Bonjour.
Alors, c'est quoi ton projet, toi, Alex ?
Mon projet pour demain, c'est de vous faire chanter. Mon projet dans la vie, c'est aussi de mener des enquêtes, parce que je ne suis pas journaliste, mais je fais partie d'une asso féministe qui travaille dans l'enseignement supérieur sur les violences sexistes et sexuelles, et qui a pour but de documenter et de chiffrer ces violences, parce que l'asso est née de cette remarque qu'il y avait un vide à combler, une lacune, qui est qu'on a très peu de chiffres sur ce qui se passe dans les universités, dans le monde de la recherche. C'est des milieux qui sont très fermés, qui font très attention à leur réputation, et dans lesquels souvent ces affaires qui se déroulent, les agressions, sont vraiment cachées par les universités qui préfèrent mener des enquêtes en interne, voire ne pas mener d'enquête du tout et effacer l'histoire. Et donc moi je fais partie d'une association qui va dans les établissements, qui crée des enquêtes, des études sur ces faits-là et qui essaye de montrer ces chiffres au public, d'essayer de montrer ces chiffres au ministère et de mettre en place des actions pour combattre ces violences dans l'enseignement supérieur.
Mais comment l'institution vous regarde quand vous arrivez? Doit vous regarder d'un mauvais œil, non?
Alors ça dépend, il y a des établissements qui nous embauchent pour faire ça.
Ah, magnifique.
Parce que depuis qu'il y a des articles qui ont commencé à sortir dans la presse sur Sciences Po, sur Polytechnique, sur les ENS, on a des établissements soit parce qu'ils veulent se racheter une bonne conscience, soit parce qu'ils veulent avoir, ils veulent être vus en train de faire des actions. Ils nous payent pour qu'on aille montrer que dans leurs établissements, il y a également des violences comme dans les autres établissements, et ce qui est quand même pas mal. Et nous, ça nous permet donc de réaliser nos enquêtes, de réaliser nos bilans, d'avoir des chiffres sur ces violences. Et après, on fait aussi des enquêtes nationales où on diffuse nos questionnaires, pas par le biais des établissements, mais par le biais des élèves, des assos étudiantes. On se fait le relais des assos féministes, des BDE, on a pas mal de contacts. Et en fait, on va transmettre les enquêtes et eux, ils vont les diffuser dans leurs établissements.
Et là, à l'heure actuelle, il doit y avoir une explosion des signalements, non ?
Tout à fait, parce que la parole se libère et donc les personnes commencent à parler. Il commence à y avoir des actions aussi au niveau gouvernemental, des choses qui tentativement se mettent en place. Et donc oui, il y a une explosion des signalements parce qu'on commence à dire aux victimes « Oui, en fait, vous avez le droit d'en parler. » Et non seulement vous avez le droit d'en parler, mais en plus, vous allez être soutenu si vous en parlez.
Enfin, soutenu par l'association, quoi.
Oui. On fait aussi des cartographies pour mettre en relation justement les victimes avec les associations locales, les plannings familiaux, éventuellement des psychologues, des aides judiciaires, etc. sur place, parce que souvent dans les établissements, les structures qui sont mises en place sont insuffisantes, voire fantômes en fait.
Ne serait-ce que l'affichage, en fait, par exemple. Tu vois, il n'y a rien, quasiment nulle part. Hein.
Tout à fait. Et quand il y a un affichage, quand il y a un numéro de téléphone ou une adresse mail auquel on pourrait joindre quelqu'un dans l'établissement, on pense qu'il y a une grande partie des cas où ce sont des adresses fantômes. En fait, derrière, il n'y a personne. Ça, c'est quelque chose qu'on a envie de tester. On a envie de contacter toutes ces adresses d'établissement avec des cas et voir s'il y a quelqu'un qui nous répond, en fait. C'est un des projets qu'on a...
Et c'est quoi le nom de cette association ?
C'est... un long nom. Donc c'est l'Observatoire étudiant des violences sexistes et sexuelles dans l'enseignement supérieur.
J'ai peut-être cité dans mon dernier cours. Ouais.
Donc pour demain, tu as quelques textes de chansons qui sont en lien avec l'activité de cette association.
Pas forcément avec l'activité de façon générale, mais oui, il y a plein de des chants féministes révolutionnaires. On en a quelques-uns. Moi, j'aime bien. Je pense que demain, je vais rapporter quelques textes d'Anne Sylvestre,
okay.
Qui est une chanteuse que j'aime beaucoup et que j'écoute depuis que je suis toute petite. J'ai commencé aux fabulettes d'Anne Sylvestre
avec
sur un Walkman.
De Noël.
Oui, moi, j'avais un Walkman avec les petites fabulettes, donc je commençais avec ça et puis ensuite j'ai découvert les autres textes. Donc voilà, si on apporte chacun quelques chansons, je pense que je vais apporter un texte d'Anne Sylvestre et puis je verrai ce que les autres apportent.
Et cet observatoire, il est à Nice ? Il est où ?
Non, c'est une association nationale. On travaille beaucoup. Enfin, nous, on est en lien à travers des réseaux sociaux. On a un Discord, un Facebook, etc. Moi, je suis la seule qui est basée sur Nice actuellement. On a des membres à Paris, à Lyon, en fait, dans toutes les grandes villes. On est entre 60 et 80 généralement. On a des membres qui prennent des pauses de temps en temps pour faire attention au burn-out militant. Parce que c'est un sujet complexe. On est toutes étudiantes bénévoles. Et donc voilà, quand on est confronté, on fait une veille sur l'actualité, sur les violences. Ça peut être un petit peu compliqué. Donc il y a des personnes qui prennent des pauses de temps en temps. Mais voilà, de façon générale, on est une soixantaine toujours en activité. On donne des conférences dans l'établissement. C'est un des choses que je fais. Moi, là, je vais donner une conférence à Sophie Antipolis. On est sollicité pour faire des conférences de prévention, rappeler ce que c'est le harcèlement, ce que c'est le consentement, que faire en cas d'agression quand on est témoin, etc. Ça, c'est, on fait un gros boulot de pédagogie là-dessus dans les universités.
Et vous êtes sollicité par les universités
oui.
pour ça la plupart du temps. Enfin, quand vous faites ces actions, c'est à la demande des...
C'est en train de devenir obligatoire, en fait. Le ministère est en train de mettre des plans pour que tous les établissements soient obligés de faire de la prévention à la rentrée. Et après, le problème, c'est que les établissements sont un peu laissés... Voilà, on leur dit, vous devez faire ça. Mais en fait, les établissements n'ont pas tous les mêmes moyens, ils n'ont pas tous les mêmes connaissances. Et donc, c'est un peu aux établissements d'aller chercher des organismes qui vont faire ces formations, ces conférences. Et donc, nous, on a pas mal d'établissements qui nous sollicitent là pour la rentrée septembre, avant les périodes d'intégration, pour aller donner des conférences à leurs élèves.
Et est-ce que, quand vous faites ces interventions, vous avez des retours en dehors des enquêtes que vous faites mais...
On laisse systématiquement une demi-heure, 45 minutes de temps de parole à la fin de nos interventions. Parce que pour nous, c'est très intéressant d'avoir les questions en fait, des étudiants. On a des fois des interventions très pertinentes, d'autres moins. Notamment, voilà, on a déjà des gens qui essaient de troller un petit peu sur ce qu'on raconte. Mais oui, non, c'est toujours très intéressant. Et généralement, les établissements nous font un petit retour derrière, nous disent, bah voilà, ils ont bien apprécié les étudiants, on pense que ça a été utile. On n'a pas encore d'établissements dans lesquels on a fait une enquête avec, par exemple, 2 ans d'intervalle pour voir si les mesures mises en place avaient vraiment servi à quelque chose. On n'a pas encore ce recul-là, c'est une asso qui est toute jeune. Mais voilà, on espère que dans le futur, ça va être quelque chose qui va se pérenniser et on va pouvoir avoir un recul sur nos actions.
Et sur les mesures mises en place, généralement, est-ce que c'est des choses qui sont obligées de faire, les établissements aussi, ou c'est suite à votre intervention aux échanges qui se disent « Ok, on met ci ou ça en place » ou comment... Est-ce que ça arrive souvent, d'ailleurs, qu'il y ait des mesures qui soient prises après votre intervention ?
Tout à fait. En fait, la plupart des établissements publics, en tout cas, sont régis par le code de l'éducation. Et il y a des mesures qui doivent mettre en place. Notamment, depuis 2018, il y a une circulaire qui a été publiée. Les établissements sont censés tous avoir un référent égalité, diversité, ça a des noms un peu différents. Ils sont censés avoir une cellule d'action pour traiter ces violences. Mais voilà, il n'y a pas de sanction prévue si l'établissement ne met pas ça en place. Parce qu'il y a aussi une sorte de loi tacite comme quoi les établissements gèrent leur fonctionnement en interne. Donc c'est des guidelines que le gouvernement instaure. Mais derrière, il n'y a pas vraiment de contrôle de ce que font les universités. Et du coup, il y a des universités qui reçoivent ce message de « il faut que vous fassiez des actions contre les violences sexistes dans votre établissement », mais qui ensuite ne savent pas vraiment factuellement quoi mettre en place. Donc effectivement, il y en a qui nous contactent pour savoir « bon ben, on voudrait faire une campagne d'information, on voudrait faire des conférences ». Et après notre intervention, généralement, ils mettent des choses en place. On aime bien ne pas tout apporter à l'établissement, travailler, créer des groupes de travail à l'intérieur de l'établissement, essayer de leur faire comprendre qu'il faut qu'ils travaillent avec leurs assos locales, avec leurs étudiants, donc voir est-ce qu'ils ont une asso féministe, est-ce qu'ils ont une asso LGBT, est-ce qu'ils peuvent créer un groupe de travail avec un peu des profs, un peu des doctorants, un peu des étudiants, et pour qu'ensuite ça soit voilà, leurs actions, leurs propositions, et qu'au final, l'idéal, ce serait qu'on soit là juste pour encadrer la discussion, mais qu'ensuite ça se fasse en interne pour que ce soit périn et qu'une fois qu'on quitte l'établissement, ça ne soit pas terminé.
Bah, y a du boulot, hein.
Tout à fait. Nous, on s'occupe essentiellement du milieu de l'enseignement supérieur et de la recherche parce que c'est le milieu duquel on vient, mais les violences, elles ont lieu dans tous les milieux. Et je pense qu'un gros travail qui est à faire dans nos associations, dans nos groupes militants, c'est aussi de réfléchir collectivement comment mettre en place des actions pour prévenir ces violences qui peuvent aussi arriver dans nos orgas, dans nos journaux, dans nos assos. C'est un travail à faire partout.
Dans le milieu alternatif.
Tout à fait.
MeToo partout.
Merci Charles.
Merci à vous.
Pour cette présentation de reporter, merci Alex. Demain, on va être à fond,
oui.
Superbement motivé. Et puis, on va faire une petite pause, là, parce qu'il y a la fanfare derrière, donc on va un peu aller se déhancher, là.
Ouais.
Bravo, Palach. Allez, à vous, les studios.
À vous, Cognac G.
C'est trop bien, ça m'intéresse beaucoup.
Youtubercule, échappe-toi, si tu peux.